de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. L'Agence indonésienne de sécurité maritime collabore avec la Malaisie pour protéger la zone du détroit de Malacca. Soekarno-Hatta devient l'aéroport le plus récupéré de l'impact de la pandémie. Ministre de Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie explore les opportunités de coopération touristique avec le Japon. Le président fait part de 4 efforts pour renforcer la coopération Indonésie-Australie. Présidente de la Chambre des représentants indonésiennes, DPR encourage la coopération bilatérale avec l'Assemblée nationale française. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre néo-zélandais, le président Joko Widodo discute de l'augmentation du commerce et de la coopération dans le Pacifique. Et l'Indonésie se bat pour la question EUDR lors des négociations CEPA de l'IEU. Bonjour, Jeter, voici la nouvelle en complet. L'Agence de sécurité maritime Bakamla de la République d'Indonésie collabore avec les forces de sécurité maritime malaisiennes pour garder la zone du détroit de Malacca. Le communiqué de presse de Bakamla mardi 5 mars a déclaré que le directeur des opérations maritimes de Bakamla de la République d'Indonésie, le premier amiral Bakamla Basri Mustari, a expliqué qu'il doit y avoir une coopération et un enthousiasme optimaux dans une seule vision pour assurer un sentiment de sécurité et de confort pour usagers de la mer dans le détroit de Malacca. Lors d'une réunion avec le chef de l'équipe de conception des opérations maritimes malaisiennes, l'amiral maritime Vincent Rajamouli, à Malacca, en Malaisie, mardi 5 mars. Basri a estimé qu'en tant que pays alliés, l'Indonésie et la Malaisie doivent construire une bonne coopération pour assurer la sécurité dans le détroit de Malacca, parce que le détroit de Malacca est une route cruciale et très fréquentée par l'activité économique maritime. Cette condition a conduit à de nombreuses activités contraires à la loi dans la région du détroit de Malacca. Angkasapura ou AP2SA a déclaré que l'aéroport de Soekarno-Hatta a été désigné comme l'aéroport qui s'est le plus remis de l'impact de la pandémie de COVID-19 pour la région Asie-Pacifique. OAG Aviation Worldwide Limited, une institution basée à Londres en Angleterre qui possède la principale plateforme de données au monde pour l'industrie du voyage, a désigné l'aéroport de Soekarno-Hatta comme lauréat des champions du réseau aéronautique de l'Asie-Pacifique, ASPAC, à savoir une médaille d'or dans la catégorie aéroport le plus récupéré. Le vice-président des communications d'entreprise de l'AP2, Chin Asmoro, dans sa déclaration à Jakarta mercredi 6 mars 2024, a déclaré que le prix était également une forme d'appréciation pour toutes les parties prenantes de l'aéroport de Soekarno-Hatta pour leurs efforts acharnés pour maintenir et renforcer la connectivité des vols pendant la pandémie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, explore les opportunités de coopération dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative avec le Japon afin d'augmenter les visites touristiques. Un communiqué de presse reçu mardi par Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, indique que Sandiaga a rencontré des représentants de l'agence japonaise du tourisme au bureau de l'agence japonaise du tourisme à Tokyo, au Japon, lundi 4 mars. Sandiaga prévoit que les visites touristiques étrangères en provenance du Japon augmenteront à 500 000 visites en 2024. Elle a ajouté que pour atteindre cet objectif, une coopération avec l'agence japonaise du tourisme est nécessaire. La portée d'une coopération potentielle comprend l'échange d'expériences et de connaissances dans l'organisation de grands événements, de programmes de formation et d'éducation visant à améliorer les compétences des ressources humaines dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que la connectivité. Le Japon est l'un des pays qui apporte beaucoup de visites touristiques en Indonésie. D'après les données du ministère du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, il y avait plus de 220 000 visites en provenance du Japon en 2023. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a souligné 4 points principaux pour renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Australie. Lors d'une réunion avec le premier ministre Anthony Albanese à Melbourne, Australie, mardi, une déclaration écrite du bureau de presse du secrétariat présidentiel de la République d'Indonésie a déclaré que lors de la réunion, le président Joko Widodo a souligné l'importance de la coopération dans le secteur des services financiers et a annoncé son intention d'ouvrir un bureau de représentation de la Banque Negara Indonesia, BNI, à Sydney. En dehors de cela, le président a également salué la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité de la capitale d'État, Nusantara IKN, en février dernier. Deuxièmement, le président Joko Widodo a souligné l'importance d'élargir l'accès au marché pour créer un commerce plus équilibré. Troisièmement, en termes de relations entre les communautés, le président Joko Widodo a exprimé sa joie devant la popularité de l'Indonésie en tant que destination des étudiants australiens dans le cadre du nouveau plan Colombo. Quatrièmement, le président a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Australie lors de la présidence indonésienne de l'ASEAN l'année dernière. La présidente de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, a encouragé le renforcement de la coopération bilatérale avec la présidente de l'Assemblée nationale française, Mme Yael Braun-Pivet, dans une déclaration écrite citée par Antara mardi 5 mars. Puan a déclaré que la réunion du Conseil représentatif du peuple indonésien avec l'Assemblée nationale française pourrait encourager une coopération plus étroite entre les deux pays. La rencontre de Pointe avec Yael Braun-Pivet est prévue au bureau de l'Assemblée nationale française à Paris. La réunion s'est tenue en marge du sommet des présidentes des parlements de 2024 sous les auspices de l'Union interparlementaire à Paris, en France. Pointe a exprimé sa gratitude à l'Assemblée nationale française pour avoir organisé le sommet des présidentes des parlements des femmes. Selon Pointe, la discussion sur les questions féminines est très importante à une époque où le monde traverse diverses crises. Le président Joko Widodo a rencontré le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon à Melbourne en Australie mardi 5 mars. Selon un communiqué du secrétariat présidentiel, la réunion a discuté de diverses questions stratégiques et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. L'un des points centraux de la discussion a été la baisse de la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays qui a atteint 18% l'année dernière. Le président Joko Widodo a souligné la nécessité de créer de nouvelles opportunités pour accroître l'interaction entre les entreprises et les acteurs commerciaux, y compris dans le secteur halal. Le président Joko Widodo a également salué la visite prévue du premier ministre Luxon avec une mission commerciale à Jakarta cette année. Dans le secteur de l'énergie, le président Joko Widodo a apprécié l'engagement financier de 15,6 millions de dollars néo-zélandais dans le programme d'énergie géothermique Indonésie Aotearoa, Nouvelle-Zélande, PINS. Le président a également encouragé la coopération trilatérale avec la Nouvelle-Zélande et l'un des autres pays du Pacifique dans le domaine du partenariat de développement conformément à la vision de Pacific Elevation Indonesia. L'Indonésie se bat toujours pour un accord sur l'agriculture, le commerce et l'industrie manufacturière lors du 17e cycle de négociations de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, IEUCEPA. C'est ce qu'a déclaré le directeur général des négociations commerciales internationales au ministère du Commerce, Jatmiko Briswijaksono, lors d'une conférence de presse en ligne mardi 5 mars, citée par Antara. Jatmiko a déclaré qu'au cours des négociations, l'Indonésie avait évoqué plusieurs points qui constituaient sa principale priorité, notamment le secteur agricole lié à la loi anti-déforestation de l'Union européenne, EUDR. Jatmiko a souligné que lors de ces négociations, trois chapitres ont été techniquement convenus, à savoir la coopération en matière de systèmes alimentaires durables, les barrières commerciales et les dispositions institutionnelles. En outre, a déclaré Jatmiko, l'Indonésie et l'Union européenne ont également discuté des investissements et des secteurs potentiels qui pourraient faire l'objet d'une collaboration entre les deux parties. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Relations Indonésie-Australie de temps en temps » avec Maudrey. Ce jeudi tard, lors de sa visite en Australie pour assister au sommet spécial ASEAN-Australie, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a profité de l'occasion pour tenir une réunion bilatérale avec le premier ministre australien Anthony Albanese à Melbourne, Australie, mardi 5 mars. Cité dans le communiqué officiel du secrétariat présidentiel, quatre points ont été discutés lors de la réunion. Tout d'abord, le président a salué le développement de la coopération entre les deux pays, notamment la signature d'un mémorandum d'accord dans plusieurs domaines, à savoir la coopération des véhicules électriques, l'autorité de la capitale d'État, Nusantara IKN, ainsi que l'ouverture d'une succursale bancaire, BNI, à Sydney. Le deuxième point, le président Joko Widodo a souligné l'importance d'élargir l'accès au marché pour créer un commerce plus équilibré. Le président a également accueilli favorablement les permis d'importation de bœuf et de bovins d'Australie. Troisièmement, le président est satisfait de la popularité de l'Indonésie en tant que destination des étudiants australiens participant au programme du nouveau plan Colombo. Il a invité davantage de jeunes Australiens à visiter et étudier en Indonésie, notamment sur la culture et la langue indonésienne. Quant au quatrième ou dernier point, le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Australie lors de la présidence indonésienne de l'ASEAN l'année dernière. Il espère que la coopération et la mise en œuvre de projets d'infrastructure et d'énergie se poursuivront. Le président a également salué le lancement de la stratégie économique pour l'Asie du Sud-Est 2040. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo, les relations diplomatiques entre les deux pays ont une longue histoire et dure depuis 75 ans. L'Indonésie et l'Australie ont connu des hauts et des bas dans leurs relations. En tant que partisan de l'indépendance indonésienne, l'Australie a été la première à envoyer une mission diplomatique en Indonésie. Cependant, les deux pays ont également connu des tensions dans leurs relations, par exemple lors de la confrontation Indonésie-Malaisie dans les années 1960 et lors de la séparation du Timor oriental de l'Indonésie en 1999. L'histoire prouve que ces pays voisins les plus proches trouvent toujours des moyens d'améliorer et de renforcer leurs bonnes relations. L'Australie est le plus grand pays du Pacifique et l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est. De bonnes relations entre les deux pays sont donc très importantes pour la stabilité régionale. En d'autres termes, on peut dire que l'Australie et l'Indonésie sont responsables de la stabilité régionale. Bon, cher Joytar, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 mars 1961, l'anniversaire de COSTRAD. COSTRAD a été formé le 6 mars 1961, à savoir le premier corps d'armée au Corps 1, au Réserve générale d'armée au CAD ou AD. En tant qu'unité la plus jeune, COSTRAD est la force principale du commandement Mandala, opération Trikora ou libération de Rian Occidental. Puis il a changé son nom pour COSTRAD en 1963. Le général de division Suharto, qui devint plus tard président indonésien, fut la première personne à occuper le poste commandant de COSTRAD ou Pangkostrad. Passons maintenant à l'événement du 6 mars 1964, le boxeur américain Cassius Clay change son nom pour Muhammad Ali. Muhammad Ali est connu comme une légende et le plus grand athlète de boxe mondial de tous les temps. Né en 1942, Ali, qui n'avait que 18 ans, avait déjà remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1960. En 1961, Ali a tenté de rejoindre la Nation de l'Islam, ce qui exigeait que tous ses membres changent tous les noms associés en esclave. Je veux dire associés en esclavage. Pour Ali, son ancien nom, Cassius Clay, était un nom associé à la traite négrière. Le 6 mars 1964, Cassius Clay annonça au monde qu'il utiliserait le nouveau nom de Muhammad Ali au lieu de Cassius Clay. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 mars, Journée mondiale de la stratégie de conservation. La Journée mondiale de la stratégie de conservation commémore la publication d'un document intitulé Stratégie mondiale de la conservation WCS le 6 mars 1980. Ce document a été présenté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, WWF, et l'Union internationale pour la conservation de la nature, OICN. 31 pays ont signé le document de stratégie mondiale de la conservation. C'est Julie Talk, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tersipu buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, nanti aku follow Twittermu. Oh, aku tunggu retweetmu. Come on.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, la coopération commerciale entre l'Indonésie et l'Australie soutient l'avenir doré de l'Indonésie en 2045. L'Indonésie joue un rôle important dans le commerce et la coopération régionaux, représentant plus de 50% de l'économie et de la population de l'ASEAN. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordonnateur des affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlangga Hartarto, lors de sa rencontre avec des acteurs économiques indonésiens et australiens lors du dialogue commercial et de la réception au Park Hyatt de Melbourne en Australie, mardi le 5 mars 2024. Le ministre coordonnateur Erlangga a déclaré que l'Indonésie est un pays doté d'une vaste économie archipélagique et située au cœur des routes commerciales mondiales, avec un bonus démographique plaçant l'Indonésie comme porte d'entrée vers l'ASEAN. Lors du dialogue commercial et de la réception, le ministre coordonnateur Erlangga a déclaré que l'Australie était et sera toujours un partenaire important pour l'Indonésie. Selon Erlangga, en 2023, l'Australie sera classée 10e sur 168 pays investissant en Indonésie et sa contribution représentera 1,1% du total des investissements de quelques étrangers IDE. Le ministre coordonnateur Erlangga a également rappelé la vision de l'Indonésie en tant que pays à revenus élevés au cours des 20 prochaines années. Dans ce cas, le renforcement de l'intégration économique transfrontalière est considéré comme important dans la stratégie de croissance de l'Indonésie. Erlangga a déclaré que l'Indonésie avait ouvert des discussions sur l'accès avec l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP, accéléré l'accord avec l'Union européenne et est activement impliqué dans le cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité IPEF. Selon Erlangga, ces instruments fourniront une feuille de route complète pour accroître les investissements de qualité et la croissance économique encouragée par les exportations et ouvriront la coopération et l'accès au marché à de grands blocs économiques. En outre, le ministre coordonnateur Erlangga a déclaré que le ministère coordonnateur des affaires économiques ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie, CADIN et les partenaires commerciaux australiens encourageraient une collaboration plus étroite dans des secteurs importants. Il a déclaré que ces secteurs, entre autres, ouvrent des opportunités dans la chaîne de valeur énergétique et l'agriculture durable, les véhicules électriques et la fabrication technologique, l'éducation et le développement des ressources humaines vers une Indonésie dorée 2045. Erlangga Hartarto a ajouté que l'augmentation de la capacité des micro et moyennes entreprises MPME, la coopération dans la chaîne d'approvisionnement de minéraux importants, l'exploitation du potentiel des ressources maritimes et le développement du projet de la capitale Nusantara sont également au centre de la coopération. Ce forum de dialogue d'accueil des entreprises a été organisé par CADIN d'Indonésie en collaboration avec le Conseil des affaires d'Australie, BCA, le Conseil des entreprises d'Indonésie et d'Australie, IABC ou AIBC, la Chambre australienne de commerce et d'industrie, ACCI, et le conseiller Fitzpatrick sur le thème « Embrasser l'avenir » pour rassembler les principales parties prenantes des deux pays. C'est auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
jalan itu aku melihat dirimu naik sepeda dan ku ikuti sepedamu. Sepeda, sepeda, sepedaku setia membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Membawaku sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, la rivière Penuh ou Sungai Penuh ne peut être pas si familière à vos oreilles. Cependant, là-bas, nous pouvons trouver un endroit appelé la colline de Kayangan. La réserve de Sungai Penuh dans la province de Jambi est entourée de collines verdoyantes et de la fertile vallée de Kerinci. Il n'est pas surprenant que Sungai Penuh est devenue une réserve proposant des attractions touristiques intéressantes à visiter. La colline de Kayangan est l'une des destinations touristiques que vous pouvez y visiter. La colline de Kayangan offre une vue imprenable sur une série de collines. La colline de Kayangan se lève à environ 2000 mètres au-dessous du niveau de la mer. La température atteint 20 degrés Celsius. La colline de Kayangan est connue comme la terre au-dessous des nuages, ce qui fait de cet endroit une destination touristique incroyable pour se détendre tout en profitant de la vue magnifique sur la ville de Sungai Penuh, le mont Kerinci, le mont Tujuh et le lac Kerinci. Seth Colin, keyboard directement Le Parc National de Crincy Seblat, est situé dans le village de Binakarya. Sungai Penuh est dispose d'installations assez complètes telles que des cabanes, des belvédères, des toilettes, un grand parking et bien d'autres. En dehors de cela, il existe de nombreux spots photos intéressants avec des vues naturelles sur les montagnes en arrière-plan. Même s'il est éloigné du centre-ville, ce lieu est un lieu pour soulager la fatigue de ses visiteurs. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure et à la même fréquence. À bientôt!
Bye.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama? Berapa lama? Pour combien de temps? Bonne écoute! Chers auditeurs, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Berapa lama? Berapa lama? Pour combien de temps? Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et une guide du musée de la conférence asiatique africaine. Chris a répondu à l'explication de la guide sur le calendrier de la conférence Asie-Afrique. Bonne écoute.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulées « Berapa lama ?» Berapa lama, pour combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Combien de temps a eu lieu la conférence? Berapa lama? Berapa lama? Combien de temps? Konferensi itu, cette conférence? Diselenggarakan, diselenggarakan a eu lieu. Konferensi Asia-Afrika. Konferensi Asia-Afrika. Conférence Asie-Afrique. Dihadiri, assister. Pemimpin, dirigeant. 29 negara, 29 pays. Selama 7 hari, pour ou pendant 7 jours. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Du 18 au 24 avril. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la phrase Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Combien de temps a eu lieu la conférence? Dans cet énoncé, il y a une expression interrogative berapa lama, combien de temps, qui est utilisée pour demander le délai de tenue de la conférence. Pour demander un intervalle de temps, vous pouvez utiliser l'expression interrogative berapa lama, combien de temps, suivi d'une activité telle que conferensi itu diselenggarakan. Konferensi itu diselenggarakan. La conférence a lieu. Chers amis, allez, maintenant écoutons un autre exemple d'utilisation de l'expression de question berapa lama. Berapa lama, combien de temps? Pour demander un intervalle de temps. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Combien de temps vas-tu rester ici? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta?
Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Combien de temps faut-il pour voyager de Bandung à Jakarta? Chers amis, la conférence Asie-Afrique de 1955 a été suivie par la tenue du sommet Asie-Afrique. Le sommet Asie-Afrique s'est tenu en 2005 à Jakarta et à Bandung, Java occidentale, pour coïncider avec le 50e anniversaire de la conférence Asie-Afrique. Parallèlement, le sommet Asie-Afrique 2015 s'est tenu à Jakarta et Bandung pour coïncider avec le 60e anniversaire de la conférence Asie-Afrique. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Jendela waktu berbeda.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Cette fois, je vais vous présenter une chanson de Sulawesi Nord intitulée « To me pare », chantée par J.K. Parantan. Chers auditeurs, la chanson « To me pare » a été composée par J.K. Parantan. Les paroles de la chanson parlent du peuple Toraja récoltant du riz. Dans les vallées et les collines, de nombreuses personnes se rendaient à pied aux rizières pour récolter joyeusement. Pendant ce temps, les enfants de bergers plaisantaient et jouaient joyeusement en attendant la fin des moissons. Tout le monde a l'air heureux quand il récolte. Bonjour, Joëtard, voici J.K. Parantan va chanter une chanson de Sulawesi Nord intitulée « To me pare ». Bonne écoute!
Si pelatekan, si pretatan, maras
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.